Bonsoir à tous. On va démarrer cette présentation de l'Atlas historique de Bordeaux. Me présenter d'abord, je suis donc Sandrine Lavaux et j'ai coordonné avec l'équipe qui m'entoure, qui n'est pas tout à fait au complet mais presque, l'Atlas historique de Bordeaux. Nous voudrions ce soir vous le présenter. Je voudrais d'abord un petit peu l'introduire au sein de la collection auquel il appartient. Effectivement, cet atlas est le 49e volume d'une collection qui s'intitule l'Atlas historique des villes de France, qui avait été initié en 1973 par Philippe Wolff et Charles Higounet, tous deux éminents médiévistes, l'un de Toulouse et l'autre de Bordeaux. Et cette collection a généré, à partir des années 80, l'édition et la publication d'une quarantaine de volumes concernant les villes françaises, avec une grande priorité accordée à nos villes aquitaines, puisque 17 villes ont aujourd'hui été traitées et publiées dans le cadre de cette collection, mais également des villes de Lorraine, des villes de Bretagne ou encore de l'Île-de-France. Donc une collection qui avait comme prétention à produire des plans historiques des villes qu'elle accompagnait d'une notice générale. Dans ce format initial qui a prévalu des années 82 jusqu'aux années 2003, avec, vous le voyez, un format qui aujourd'hui nous paraît un peu encombrant, mais qui avait comme objectif premier de publier le plan de la ville. On en reparlera tout à l'heure à propos de l'Atlas de Bordeaux, mais ce plan est effectivement le document central, un plan établi après à partir du premier plan cadastral napoléonien, sur lequel l'historien en charge de la ville reporte les monuments disparus ou encore en place à la date du plan et restitue ainsi les différentes évolutions de la formation de l'espace urbain. On accompagnait ces plans d'une notice générale, que vous voyez ici très liminaire, originellement réduite à deux feuillets, c'était donc là la forme initiale de ces atlas historiques des villes de France. Voilà le plan ici de Alençon au 2500e à l'échelle similaire à celle des cadastres de référence. Alors cette collection a ensuite évolué à partir du moment où elle est passée sous l'égide de l'Institut Ausonius et a adopté à partir de 2003 cette maquette que vous connaissez maintenant par l'Atlas de Bordeaux mais qui avait déjà été initiée pour Oloron-Sainte-Marie et Orthez, avec toujours le même principe du plan et d'une notice générale qui était déjà un peu plus nourri. Ainsi pour Orthez, c'est plus de 90 pages qui étaient là pour permettre de donner les clés de compréhension du plan et amener les faits historiques essentiels pour comprendre donc l'évolution de la ville. Alors cette collection donc avait fixé le cadre et les modalités de mise en œuvre d'un tel atlas et il s'agissait de l'adapter au cas bordelais. Le cas bordelais était un peu spécifique parce que pour la première fois dans l'histoire de la collection, on traitait une grande ville, une ville d'une ampleur importante en matière d'espace urbain, mais aussi de population, et dont vous savez aussi que cet espace urbain correspondait à la fois au plus grand secteur sauvegardé de France, avec, si je ne m'abuse, 1810 hectares.
C'est l'UNESCO,
excuse-moi. Alors, un secteur sauvegardé.
60, je crois.
Voilà, tout à fait important, mais en même temps, vous le savez, une ville dont le patrimoine a été tout à fait validé par cette attribution du label patrimoine de l'UNESCO, donc qui couvre donc les 1800 hectares dont je parlais. Donc un défi de par l'ampleur de la ville, de par sa dimension patrimoniale, mais un défi aussi puisque depuis deux décennies, Bordeaux bénéficiait d'un renouvellement des données historiques et archéologiques la concernant. Vous le savez, de nombreuses opérations archéologiques ont eu lieu dans le cadre des opérations du tramway, de la création de parkings, et a mené véritablement un renouvellement des connaissances que l'on avait jusqu'alors sur la ville. Il en était de même en matière historique, de façon peut-être moins connue du grand public, mais depuis une vingtaine d'années, nombre de mémoires mémoires, de thèses ont été réalisées autour donc de cette relecture de l'histoire de la ville. Donc Bordeaux a demandé véritablement de repenser le modèle initial et également aussi, on le verra avec Ézéchiel Jean-Couret, de repenser aussi les techniques mises en œuvre pour l'élaboration du plan. On y reviendra, mais je le dis tout de suite, l'un des grands acquis de ce nouveau modèle est d'avoir permis le géoréférencement du plan, hein, dont Ézéchiel vous dira tous les avantages. Donc, il s'agissait de promouvoir pour nous, à la fois au sein même de la tradition de cette collection, une nouvelle expérimentation, un nouveau modèle. Alors, je voudrais dire d'abord que, pour mettre en œuvre cela, eh bien, l'Atlas a dû réunir une équipe. Ça aussi, c'est nouveau en matière de production d'Atlas historique de ville, puisque jusqu'alors, un archéologue, un historien se chargeait de sa mise en œuvre. Pour Bordeaux, il fallait une équipe à sa mesure. Hein. Aucun d'entre nous, je crois, n'aurait été à même de véritablement mener une telle entreprise. Et donc, j'ai rassemblé une équipe d'historiens, d'archéologues, hein, mais également de cartographes qui ont participé à cette entreprise et qui, chacun, selon ses spécialités, est intervenu tant dans la rédaction que dans le complément du plan hein, de cet atlas. Alors, c'est un atlas qui, de ce fait, est complètement en lien et issu d'un programme de recherche, hein, un programme de recherche qui a été initié au sein du laboratoire de recherche Ausonius, hein, qui, en plus d'être institut de recherche, est également maison d'édition et qui a pris en charge cette édition scientifique de l'atlas. Hein, là encore, que tous ceux qui ont participé en soient remerciés parce que l'entreprise, là aussi, a été véritablement collective. Et puis, cette Atlas a été aussi l'occasion de partenariats plus proches entre justement l'université Ausonius et les services régionaux de l'archéologie avec lesquels nous travaillons au quotidien et qu'il s'agissait donc d'institutionnaliser par le biais de cet Atlas. Je voudrais dire aussi, pour achever cette présentation générale du cadre de sa production, dire aussi combien l'Atlas a eu le soutien, tant de la DRAC bien sûr, mais également des collectivités territoriales, que ce soit le Conseil régional, que ce soit le Conseil général de Gironde, et puis bien sûr au premier chef la ville, hein, qui, notamment depuis l'attribution du label patrimoine de l'UNESCO, s'est montrée très demandeuse, hein, justement, d'une expertise de la part des historiens et archéologues, d'une aide en matière de compréhension justement de cet espace urbain, tant pour mieux envisager le passé, mais aussi pour mieux penser l'avenir. Donc ce soutien-là a été aussi évidemment tout à fait décisif dans cette entreprise. Alors l'Atlas tel que nous l'avons pensé, tel que nous l'avons fait évoluer, se présente, vous le savez, pour si vous l'avez pris le temps de le consulter, sous la forme aujourd'hui de 3 volumes, donc un bébé qui a beaucoup grossi à la mesure de la ville, hein, avec un tome 1 que Ézéchiel Jean-Couret a coordonné, et je vais d'ailleurs le laisser parler pour qu'il vous parle de ce travail tout à fait remarquable de cartographie, hein, et un tome 1 donc consacré, que nous avons intitulé « Les plans historiques ». Je reprendrai ensuite la parole pour parler des autres tomes. On va intercharger.
Ah oui, c'est vrai. Bonsoir à tous. Effectivement, si dans le cadre de la collection de l'Atlas historique des villes de France, chaque atlas, chaque tome présente de la cartographie, c'est bien l'ensemble de la collection qui fait œuvre d'atlas et pas spécifiquement les planches cartographiques qui sont présentées à l'intérieur de chaque volume. Au demeurant, pour la réalisation de ce volume, comme pour les autres atlas, eh bien, il a été pris, on a décidé de respecter le principe de la collection, à savoir disposer sur un plan cadastral ancien et fiable, eh bien, les éléments permettant de connaître, d'expliquer, de comprendre les étapes essentielles de la formation d'une ville donnée. Alors pour Bordeaux, il fallait choisir parmi les différentes campagnes cadastrales qui étaient disponibles. Il y en a un certain nombre qui échelonnent le 19e siècle. et il fallait en même temps pouvoir disposer des planches cadastrales cartographiées ainsi que des matrices cadastrales qui, dans l'idéal, permettent de qualifier la nature de l'occupation du sol de chaque parcelle qui est déclarée auprès de l'administration fiscale. C'était quand même un peu un miroir aux alouettes, dans la mesure où, même si les documents existent bien, eh bien ces fameuses matrices cadastrales ne délivrent pas l'information exacte en ce qui concerne la nature de l'occupation du sol. Il y a beaucoup d'éléments... des parcelles qui ne sont pas décrites, qui apparaissent comme non bâties, alors qu'il s'agit vraisemblablement pour un certain nombre de jardins potagers ou d'autres choses de ce type. Et de fait, le plan qui est présenté ici, le fond de plan en tout cas, n'est pas la transcription du paysage urbain tel qu'il est au milieu du 19e, c'est avant tout un paysage cadastral qui est présenté au lecteur et sur lequel nous avons décidé, avec un travail commun et puis aussi un travail particulier avec chaque auteur, de redisposer sur ce plan les sites et monuments qui permettent de comprendre les étapes de formation de la ville. Alors, on peut dissocier deux périodes, je dirais, dans la réalisation de ce document cartographique. L'une étant la réalisation du fond de plan en tant que tel, et c'est en ça peut-être que l'opération de l'Atlas historique a le plus innové, puisque sur les 4449 hectares que compte la commune en 1865, eh bien, le cadre géographique que nous avions défini, hein, qui devait globalement s'ancrer dans le cadre des boulevards construits dans la seconde, enfin ouverts dans la seconde moitié du 19e siècle. Sur ce cadre, donc des 4449 hectares, le cadre géographique concerné par l'Atlas occupait à peu près 2500 hectares. En définitive, on a cartographié un peu plus, et ce sont 48 planches cadastrales qui ont été cartographiées, avec une nouveauté que l'on baptise du terme barbare de géoréférencement, et qui consiste simplement à repositionner, recaler de façon très précise, la plus précise possible, selon un cahier des charges bien, bien précis, de recaler ces planches cadastrales napoléoniennes sur le cadastre numérique existant. Et à cette fin, l'ensemble de l'équipe et des institutions peuvent remercier aussi la mise à disposition gracieuse qui nous a été faite de ce cadastre numérique par les services des données géoréférencées de la communauté urbaine de Bordeaux, qui nous a donné cette version numérique du cadastre de 2006. On compare les ressemblances qu'il y a entre la ville en 2006 et puis le cadastre napoléonien qui a été choisi, qui est celui de 1850-55, et par recoupement des observations concourantes, eh bien, on arrive à recaler les feuilles, c'est-à-dire d'une part à les repositionner dans l'espace, mais aussi à corriger les déformations qu'il existe sur les feuilles, soit à cause des problèmes de technique de conservation, les feuilles qui sont sur des supports papier en archive, eh bien, elles sont parfois voilées, gondolées par l'humidité ou au contraire une atmosphère trop sèche. Et puis, ça peut pallier aussi les problèmes de levée topographique, les problèmes de triangulation qui n'étaient pas aussi poussés que ceux que l'on connaît aujourd'hui. Alors c'est quand même important d'utiliser ce géoréférencement dans la mesure où, jusqu'à présent, Sandrine vous l'a dit, les 48 précédents volumes étaient consacrés à des villes de taille petite à moyenne, où donc l'assemblage de planches cadastrales ne pouvait pas trop déformer la réalité topographique de la ville. Mais quand vous avez à assembler 48 planches topographiques, 48 feuilles cadastrales, eh bien, si vous le faites de façon manuelle, vous pouvez déformer véritablement la topographie de l'ensemble du site. Et donc, à cette fin, le géoréférencement permet de respecter non seulement cette topographie, mais aussi de numériser l'ensemble des données du cadastre napoléonien pour qu'elles soient ensuite intégrables dans d'autres systèmes de gestion de données, en particulier les systèmes d'information géographique. Ça permet d'ajouter des informations complémentaires sur les cartographies anciennes de la ville. Une fois que ce fond de plan a été réalisé, ça a été une entreprise qui a un petit peu duré, je dirais, puisqu'il s'agissait quand même de redessiner un peu plus de 90 000 objets. Eh bien, j'ai travaillé avec chaque auteur. Je leur ai demandé de réaliser un dossier documentaire précis sur chacun des 173 sites ou groupes de sites et monuments qui étaient traités ensuite dans le volume 3 de l'Atlas, et ce, afin de les cartographier de la façon la plus précise possible, en respectant à la fois les normes adoptées par l'ensemble de la collection, hein, notamment sur les normes sémiologiques, les couleurs qui sont employées pour représenter les documents, l'Antiquité étant en violet, le Moyen-Âge étant en rouge, l'époque moderne étant en orange, et l'époque contemporaine, début de l'époque contemporaine, entre révolution et date du cadastre, en vert. Et donc, une fois que ce travail a été réalisé avec chaque auteur, les sites, effectivement, ont été reportés de la même façon, avec le même cahier des charges en matière de géoréférencement, sur le plan, et en mettant aussi en place une cartographie qui permette de se rendre compte de la finesse de l'état de restitution qui est proposé, à savoir si l'état de restitution est fiable, s'il est de qualité plus hypothétique, variable. Il y a une légende qui transcrit ces degrés de restitution qui sont évoqués, qui ont été travaillés avec l'ensemble des auteurs. Et puis enfin, par ailleurs, la cartographie sort de ce premier volume de l'Atlas pour aller dans la notice générale de cet Atlas sous la forme de plans historiques, de plans de synthèse qui permettent à la fin de chaque chapitre, de chaque époque, eh bien, de proposer un état des lieux le plus à jour possible de la ville à un moment donné. Donc on sort de la vision cumulative que propose le plan cadastral, qui lui a tendance à superposer toute l'information sur le même fond de plan, pour ensuite, dans le volume 2, avoir des instantanés correspondant à chacune des périodes traitées par les auteurs qui ont travaillé.
Voilà, donc,
j'en ai terminé pour la présentation du plan.
Donc je vais poursuivre cette présentation avec les deux autres volumes qui ont accompagné ce plan, qui sont donc véritablement des compléments au plan, qui sont là pour fournir les clés de lecture de ce plan, qui demeure le document central, avec bien sûr une notice générale qui produit une synthèse sur l'histoire de la formation de l'espace urbain bordelais. Alors, au regard évidemment des atlas précédents, cette notice a beaucoup grossi, hein, c'est 305 pages de texte seulement, avec tous les outils bibliographiques et d'indexation qui vont de pair. Une notice générale qui est ordonnée par grande période, et à l'intérieur de laquelle des chapitres ont été découpés en fonction des moments en rupture ou des moments clés en matière de formation de l'espace. Hein. On écoutera tout de suite les auteurs sur leurs avancées en matière de recherche. Et nous avons voulu accompagner également cet ensemble d'un volume qui est inédit dans la collection, qui est donc un volume 3 que nous avons intitulé « Sites et monuments », et qui, justement, Ezekiel l'a un peu initié, vous fait un inventaire des différents monuments représentés sur le plan. Ces monuments sont répartis de façon chronologique, d'abord par période, Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne et 19e siècle, et sont présentés de façon uniforme, avec donc une fiche signalétique selon la couleur de leur période, signalant leur typologie, leur fonction, en même temps que leurs coordonnées sur le plan, leur chronologie de construction, et selon une trame de rédaction qui a été quelque peu similaire pour l'ensemble des notices, sauf pour les structures un peu particulières que sont par exemple les enceintes, hein, et qui évoquent donc d'une part le contexte de construction du monument, ensuite des éléments relatifs à son architecture, et enfin, en troisième lieu, sa fonction et son évolution sur la longue durée. De fait, ces monuments, qui sont accompagnés d'une illustration, d'une iconographie tendant à éclairer notre propos, ont été donc classés tant en fonction de leur période que de la typologie, c'est-à-dire de la fonction auquel ils devaient remplir, en même temps donc ensuite qu'un classement alphabétique selon leur toponymie. De fait, vous le comprendrez, et j'en terminerai là dans ma description de cette production qu'est l'Atlas historique, ces trois volumes sont éminemment complémentaires. Le lecteur devrait les avoir en permanence, les trois ouverts sous les yeux, puisque les liens entre ces trois volumes sont assurés essentiellement par un jeu d'indexation. Tous les monuments qui sont signalés sur le plan et dans Cité Monuments sont mentionnés dans le texte par le biais d'un astérisque, hein, et permettent ainsi, ça permet ainsi de les retrouver, hein, de retrouver tant leurs notices, hein, que les différentes annotations dont ils font l'objet dans la notice générale. Dernier point, nous avons aussi voulu mettre en exergue ce que nous avons appelé les acteurs de la fabrique urbaine, hein, par le biais de notices bibliographiques qui sont incorporées à la fin du volume 3 qui sélectionnent donc ceux qui ont investi directement, qui sont intervenus directement dans cette formation de l'espace urbain, que ce soit des architectes, que ce soit des commanditaires, hein, ou que ce soit des maîtres d'œuvre, des sculpteurs, etc., qui sont intervenus directement donc sur l'espace. Voilà un petit peu. Alors, pour en conclusion de ce préambule. Je voudrais dire que nous n'avons pas eu prétention à produire une histoire totale de Bordeaux. Il reste bien évidemment totalement à repenser, à revoir tant son histoire sociale que son histoire politique, que son histoire économique, autant d'éléments qui bien sûr ont interféré dans notre propos, mais qui ne sont que périphériques. Hein. Notre objet était véritablement de faire une relecture, hein, de la formation de l'espace urbain qui finalement on avait depuis la grande histoire de Bordeaux de Charlie Gounet n'avait pas donné lieu à un véritable bilan, hein, que non seulement les chercheurs appelaient, mais encore une fois les différents acteurs de la ville, hein, qui en étaient demandeurs. Nous souhaitons que justement elle permette quelque peu aux Bordelais de se, si ce n'est de se réapproprier, en tout cas de porter un regard un peu différent sur leur ville, hein, au-delà de la vitrine d'un Bordeaux des Lumières qui certes est très belle, mais qui peut-être fait oublier l'ancrage et la profondeur historique de la ville. Voilà. Chacun des membres de cette équipe va maintenant intervenir. On va agir par période, hein, et tenter de mettre en exergue ce qui, pour lui, a été sans doute une des avancées majeures en matière de recherche et de connaissance de la ville pour ces dernières décennies, et que nous avons voulu traduire ici dans ce travail. Voilà. Dany Barrault, donc, qui va parler pour l'Antique, hein, conservateur régional de l'archéologie, et qui a participé donc sur le chapitre Antique aux côtés de Christophe Sirex et de Louis Morin, hein, qui ne sont pas là ce soir.
Pas être là aujourd'hui. Oui, donc je vais rapidement parler de l'Antiquité. Il y a beaucoup de choses nouvelles à l'intérieur de l'Atlas, tout simplement parce que l'Atlas est rédigé à partir d'un travail, je dirais, collectif, qui va au-delà de l'Atlas, qui est le travail des équipes d'archéologues qui se sont multipliés et qui sont intervenus de manière différente depuis, on va dire, le début des années 70, avec les grandes mutations urbaines de Bordeaux, qui ont entraîné effectivement des grands chantiers, qui se sont succédés quasiment presque tous les ans depuis, on va dire, le grand chantier qui a constitué le démarrage de l'archéologie urbaine, qui est le chantier des allées de Tourny à Bordeaux, au début des années 70. À partir de cette date, on a eu systématiquement des opérations ponctuelles plus importantes que la presse a relatées, donc je n'insisterai pas là-dessus, mais qui ont participé à une relecture totale de l'histoire de Bordeaux pour l'Antiquité, certes, mais aussi pour la proto-histoire, puisque notre chapitre, qui a été rédigé donc par Louis Morin, Christophe Sirex et moi-même, débute effectivement avec le néolithique, où il y a quelques traces effectivement qui ont été identifiées au XIXe siècle, et qui ont été réétudiées récemment par Julien Rousseau-Larocque dans un article de la Société d'archéologie de Bordeaux, qui a montré qu'il y a une occupation néolithique qui existe sur Bordeaux. On ne sait pas comment elle se structure, mais elle existe. Il y a un grand trou, mais la véritable organisation de la ville commence avec l'âge du fer, avec le 5e siècle avant notre ère, où là on a l'installation durable sur une plateforme de gravier qui domine la Garonne, c'est-à-dire à peu près, pour vous situer, sous l'emplacement du Grand Théâtre de Bordeaux, dans ces secteurs-là. Et les fouilles récentes du Grand Hôtel de Bordeaux ou celles du cours du Chapeau Rouge ont permis de mettre en évidence une occupation continue depuis le 6e siècle avant notre ère sur ce secteur-là. Organisation, et ça c'était la grande surprise des fouilles récentes que l'on évoque dans le volume, organisation structurée, organisée quasiment à partir du IVe siècle à notre ère, avec des maisons qui se construisent les unes après les autres, mais toujours au même emplacement, ce qui suppose une organisation du territoire dès le IVe siècle avant notre ère, ce qui est nouveau, puisqu'on pensait que la ville n'avait été structurée et n'avait existé qu'à partir de l'époque romaine. Donc ça, c'est une nouveauté qui est abordée à l'intérieur, qui a posé une autre question, puisque les théories qui avaient été avancées à la suite de Camille Julien, notamment par Robert Étienne, qui avait établi, disons, la première trame en 1962 de Bordeaux antique, était que les Bituriges vivis, que le peuple qui habitait Bordeaux à cette époque-là, était arrivé au IIIe siècle avant notre ère, et s'était installé, avait créé l'Emporium de Burdigala, puis qui avait été développé par la suite par le conquérant romain. Il faut un peu revoir les choses maintenant à la lumière des nouvelles découvertes. On sait probablement, grâce notamment aux fouilles du cours du Chapeau Rouge, et c'est précisé dans l'Atlas, que les Bituriges vivis ne sont arrivés probablement qu'après la conquête romaine, probablement amenés par le conquérant romain, pour verrouiller une tête de pont qui est Bordeaux, qui est l'ouverture sur l'axe méditerranéen et qui est fondamentale pour eux. Tête de pont qui va prendre une importance considérable à partir du règne de Claude, puisque c'est à partir de cette époque-là que la Bretagne, quand je parle de Bretagne, c'est la Grande-Bretagne, mais à l'époque on dit la Bretagne, devient romaine, et donc Bordeaux a un nouveau débouché économique et est une plateforme absolument essentielle de transit entre le monde méditerranéen et le monde atlantique, et va le rester quasiment jusqu'au début du XXe siècle, pour ne pas dire jusqu'à notre époque. Voilà, donc ça c'est un des éléments nouveaux dans l'Atlas, effectivement, la mise en évidence d'occupation dès les années 40-30 avant notre ère, de structuration de l'espace en contrebas sur le cours du Chapeau Rouge notamment, avec l'installation de petits habitats, une sorte de colonie qui s'installe au pied de l'ancienne occupation gauloise qui remontait, je vous le dis tout à l'heure, au 5e, 6e siècle. Structuration qui s'organise au pied de cette colline comme pour accueillir une nouvelle population. Il faut attendre après le début de l'ère les années 10-20, je veux bien, hein. J'ai la gorge. Merci. Les années 10, entre 5 et 10 du début de notre ère, pour voir s'installer une ville à la romaine, une ville quadrillée avec des rues classiques, avec une maille. J'ai parlé toute la journée, c'est pour ça. Avec une maille qui fait 120 mètres de côté, qui quadrille la ville, mais alors qui la quadrille littéralement, on a des géomètres qui arpentent probablement la cité. Et ce quadrillage, on le retrouve encore dans l'organisation urbaine de la ville de Bordeaux. Certaines rues actuelles que vous fréquentez tous les jours, la rue Sainte-Catherine, la rue Porte-Dijon, le cours de l'intendance, sont des rues romaines dès ces années-là. C'est-à-dire que c'est des rues qui ont 2000 ans. En fait, et qui vont, et l'Atlas le montre bien, là je pense que mes collègues des autres époques le montreront, vont évoluer mais vont rester toujours sur cette même trame. Et ça, il faut le reconnaître, c'est le règne d'Auguste en fait qui met en place, et ça a été vérifié à plusieurs moments, sur plusieurs chantiers, cours du Chapeau Rouge, sur l'immeuble du journal La France, rue Porte-Dijon, très récemment rue du Ha, à l'occasion des fouilles sur l'immeuble Bouygues qui est en cours de construction, plus récemment aussi sur des fouilles qui ont eu lieu à la cité judiciaire, qui ont été publiées aussi très, très récemment. Tout ça a été vérifié, donc on est quasiment certain maintenant que la trame urbaine, la ville antique, se met en place au début de l'ère, c'est-à-dire dans les années 5-10 de notre ère, la ville va prospérer. Je ne vais pas passer sur les détails parce que je vais être trop long. Et il y a beaucoup de nouveautés. Simplement, ce qu'on sait, c'est maintenant qu'on connaît à peu près pas mal de monuments publics. Et la nouveauté aussi, c'est la mise en évidence, notamment par un chercheur du CNRS, qui est d'Ausonius, la réétude d'un bâtiment de découverte du XVIe siècle. Vous voyez que des fois, l'archéologie se repenche sur ses propres découvertes. Et la mise en évidence d'un sanctuaire. Enfin, moi, ce que je considère comme un sanctuaire impérial, probablement, d'époque claudienne, qui se trouve sur le mont judaïque, que Robert Étienne avait déjà, en 1962, envisagé comme étant un des lieux importants de Bordeaux, parce que c'est un lieu qui domine l'ensemble de la cité, qui repose, effectivement, le problème du rôle de la capitale des Bituriges vivisques. Vous savez que l'historiographie considère que la province d'Aquitaine, grande province que crée Auguste aussi au début de l'ère, qui va de la Loire aux Pyrénées, a eu comme capitale Sainte, et Louis Morin, s'il était là, qui a écrit un grand ouvrage sur Sainte Antique, c'est un débat qu'on a entre nous, ferait des bons s'il m'entendait, donc vous lui transmettrez, mais lui plaide effectivement pour Sainte comme capitale, ce qui jusqu'à maintenant était communément admise, mais effectivement, les découvertes récentes sur Bordeaux, la mise en évidence d'une agglomération très étendue des milieux du 1er siècle, près de 120 ou 130 hectares, ce qui est très grand déjà pour l'époque, c'est une ville qui explose littéralement, remet oblige à se repencher effectivement sur la hiérarchie des villes au sein de la province et pose le problème effectivement du rôle de Bordeaux dès le 1er siècle de notre ère. C'est une ville qui ne va pas finir de s'étendre, hein, pour atteindre près de 160 à 70 hectares au début du 3e siècle, avec là tout un appareil qui est évoqué dans le volume de l'Atlas, tout un appareil monumental, classique, que l'on retrouve dans toutes les villes. On a repéré 3 secteurs de terme public sur Bordeaux, on a un amphithéâtre, on a probablement un théâtre qui se trouve pas très loin d'ici, probablement sous la résidence du préfet de région, puisqu'on a des murs qui sont signalés au XIXe siècle. On a un sanctuaire au dieu Mitra qui s'installe au début du IIIe siècle, un très grand sanctuaire, un des plus grands de Gaule, hein, qui est directement un très grand port qui commerce, qui développe une activité économique considérable et qui font, là, au IIIe siècle de Bordeaux, la capitale de la province d'Aquitaine. On en est certain, on sait qu'au IIIe siècle, Bordeaux est capitale. La construction de l'enceinte, et après je vais passer la parole au Moyen-Âge qui s'impatiente à côté de moi, la construction de l'enceinte a pu être fixée aussi récemment, et c'est elle qui restructure complètement le schéma urbain, puisqu'à la fin du IIIe siècle, probablement entre les années 280 et 290, 300, grand maximum, une grande enceinte vient entourer le cœur de la ville, le cœur économique de la ville, c'est-à-dire le port, et c'est une nouvelle ville qui apparaît, une nouvelle ville organisée différemment, qui est toujours une ville romaine, mais qui visiblement fonctionne sur d'autres critères topographiques. Et je vais passer la parole à mon collègue et voisin, en essayant d'avoir été court.
C'est moi qui ne fais pas de présentation. Donc le Moyen-Âge, qui commence traditionnellement disons, 5e siècle, pour ce qui concerne la partie que j'ai eu à traiter, s'est étendue donc jusqu'au XIIe siècle. On reprend une périodisation qui était celle déjà de Charles Ligounet dans son Histoire de Bordeaux, et qu'il avait traité le long haut Moyen-Âge, même si au XIIe siècle on n'est plus dans le Moyen-Âge, on est vraiment dans le Moyen-Âge du milieu, le plein Moyen-Âge, le Moyen-Âge central. Pour autant, il est vrai que cette périodisation a du bon, dans la mesure où ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle, à partir de l'aménagement donc de l'enceinte du bourg, cette grande enceinte donc qui suit le cours actuel, le tracé du cours Victor Hugo, que l'on sort du cadre antique, puisque comme cette enceinte que Danny Barrault donc vient de présenter, on la voit donc rester le cadre dominant, le paysage en quelque sorte des habitants de la ville, jusque donc au début du XIIIe siècle. Alors dans cette période-là, qui est quand même un très long Moyen-Âge, ce qui a participé au renouvellement des connaissances, et bien sûr donc les acquis de l'archéologie, mais aussi, et ça c'est très récent, les acquis de la morphologie, et là le travail d'Ézéchiel Jeancouret a été déterminant dans un nouveau regard sur la ville, et puis un autre regard aussi sur les textes, des textes connus ou moins connus, qui ont amené donc à avoir émergé des choses qui n'apparaissaient pas ou qu'on avait mal interprétées encore donc lors de la rédaction de l'Histoire de Bordeaux en 1961-62 par sous la direction de Charles Ligounet. Alors, entre autres découvertes importantes, il y a, pour ce qui concerne le début, c'est-à-dire les 7e, 8e siècle, l'idée que, finalement, ce peuplement urbain n'est pas un peuplement atone, comme on aurait pu le croire, mais qu'au contraire, donc, c'est un peuplement qui poursuit sa structuration interne. On le voit se densifier, notamment autour du quartier Saint-Pierre, où là, on assiste à un mouvement de parcellisation le long, donc, de l'ancien port intérieur, dont on sent que l'occupation est finalement beaucoup plus longue qu'on ne l'avait pensé à une époque, puisque celle-ci va bien au-delà du 6e siècle, ce port intérieur. Et cette parcellisation progressive du quartier Saint-Pierre occupe quand même, mine de rien, quelque chose comme 6 hectares. En même temps, on se rend compte aussi que à l'intérieur de la ville, le noyau épiscopal est un noyau fort ancien. Et là, donc, on a abandonné l'idée qui était une idée assez ancienne, mais que l'on a vu au demeurant être portée assez longtemps. L'idée que finalement, cette première cathédrale, c'était une cathédrale suburbaine du côté de Saint-Seurin, et qu'elle serait ensuite rentrée intramuros assez tardivement. Donc là, les découvertes archéologiques dans le secteur de Péverland, hein, comme vous le savez, ont amené à penser qu'il y avait ici un groupe épiscopal fort ancien et que ce groupe épiscopal est demeuré tout au long du Moyen-Âge un pôle structurant de la cité antique. Par ailleurs, a émergé, aussi bien par l'étude des textes que par l'analyse morphologique, un pôle, une espèce de cour, curtis post-carolingienne, donc dont la datation n'est pour l'instant pas assez bien calée, mais qui est en plein cœur de la ville, qui s'étendait donc entre Saint-Projet et en gros donc le cours de la Devèze. du côté de l'impasse Sainte-Catherine. Et cet ensemble-là est un ensemble qui pose effectivement beaucoup de problèmes, car par son importance topographique, 4 hectares et demi, les équipements associés, qui sont des équipements publics, ateliers monétaires, palais ducal à un moment donné, tout ceci donc est inédit et donne à penser qu'on avait là le cœur, du moins le pôle ducal, voire un pôle royal, s'il s'agit bien d'une construction carolingienne, comme on peut aussi le penser. Et puis, les invasions, les incursions scandinaves ont amené donc une rétraction importante du peuplement. J'ai pas trop le temps de développer tout ça, mais cela se manifeste surtout à l'extérieur de la ville. Et les signes de réveil n'arrivent qu'assez tardivement. Tout au moins, on commence à sentir quelques signes de frémissement que l'archéologie donc a parfaitement bien calé maintenant, notamment de manière périphérique. Il s'agit là de chantiers que l'on voit autour de Sainte-Croix de Bordeaux au tournant de l'an 1000. Ça, c'est des fouilles qui ont été menés sous la direction de Jean-Luc Piat qui ont prouvé cela. Et puis, à l'intérieur, autre signe de frémissement, des textes qui sont de plus en plus nombreux. Et puis, à partir des années 1070, 1080, là, réellement, on passe à autre chose. C'est un réveil de la ville avec de grands chantiers urbains, avec des indices de structuration, des indices de territorialisation et des indices de densification du bâti. Donc là, on sort vraiment de cette espèce de creux de la vague qui a suivi donc la période des incursions scandinaves, et on repart donc sur une phase de peuplement et densification qui finalement ne s'arrêtera plus. Et ces phases donc est accompagnée de quelques éléments tout à fait nouveaux. En particulier donc maintenant, on comprend mieux ce qui s'est passé pour ce qui concerne le pôle ducal, qui a été abandonné dans un premier temps, puisque le pôle ducal de Saint-Projet, dans le cadre de la Curtis récemment découverte, donc a été abandonné, on sait quand, donc dans les années 1070, au profit d'un nouveau pôle qui s'est développé donc sur les berges et qui correspond donc en fait à une tour, puis au château de l'Ombrière. On est là donc sur l'actuelle place du Palais. Et ce transfert donc de l'autorité ducale est très intéressant, parce qu'on constate là que l'autorité ducale change, sort de la ville antique, qui est une ville fortifiée, pour s'installer au plus près des appontements et contrôler ainsi le trafic sur la Garonne, qui est un trafic financièrement, fiscalement très intéressant. Par ailleurs, indice également de chantier dans la ville, avec la cathédrale dont tous les textes montrent à cette époque qu'elle est en pleine transformation monumentale. Et puis surtout, ce qui est à mon sens encore très intéressant, c'est qu'au sud, l'analyse morphologique vient de montrer la mise en place d'un lotissement, un grand lotissement d'à peu près 6-9 hectares. Lotissement donc qui s'étend entre la place de l'Ombrière et l'église Saint-Michel. Donc on est là le long de la berge, on est en dehors de l'enceinte antique, et cela atteste encore une fois donc de la vigueur de la proximité des berges de la Garonne. Dès lors, 12e siècle, il faut aller vite, tout prouve que la densification avance, une certaine territorialisation également est à l'œuvre. Les paroisses, on sent mieux le phénomène donc de mise en place des paroisses, ce qui a permis donc de remettre en cause une des cartes qui est très connue dans l'Atlas de Bordeaux sous la direction de Charles Gounet, selon laquelle donc les limites paroissiales étaient pratiquement définies dès le 12e siècle. Ce que l'analyse donc ici a montré, c'est que là où il y a conflit entre différentes juridictions, entre différents seigneurs, les limites, effectivement, sont rigidifiées. En revanche, elles ne le sont pas là où il n'y a pas conflit. Et cela donne à penser, finalement, à une ville qui se structure et qui se territorialise, mais qui le fait de manière assez souple encore, jusqu'à un 12e siècle très avancé. Pour la suite, donc, je préfère laisser la parole à mes collègues.
On va laisser la parole à Pierre.
Je vais pousser Pierre.
Oui, alors très rapidement, pour le reste du Moyen-Âge, je crois qu'un des éléments les plus marqueurs de cette extension et de cette densification de la ville, c'est la scansion de l'espace par les différentes enceintes. On a évoqué l'enceinte qui, au Moyen-Âge, est l'enceinte de la cité, on a évoqué l'enceinte du bourg, il y a la grande enceinte de la ville autour, ce sont les trois principales, il y en a d'autres, mais les trois principales enceintes de Bordeaux qui scandent l'extension de cet espace, mais qu'il ne faut pas, absolument pas considérer comme des poupées russes. C'est le même corps urbain qui s'étend en créant, en se créant de nouvelles limites, de nouveaux marqueurs de l'espace. Et je crois que là, il y a énormément de nouveautés, aussi bien dans les détails de l'enceinte, des enceintes, des positionnements, même des chronologies, des progressions pas forcément toujours définitives, on peut toujours avoir des reprises, et aussi dans le tissu urbain qui est à l'intérieur. Voilà.
Oui, j'étais bref, quand même.
Oui, c'est bien. Pour un long Moyen-Âge, c'est bien. La période moderne, René Lelier va nous évoquer. Laurent Coste est un peu grippé, si j'ai bien compris. Il ne sera pas ici, mais René va pouvoir parler.
Donc, je vais essayer de le remplacer. Donc, je serai indulgent, puisque j'ai su ça il y a une heure. Donc, je vais essayer de vous définir le 17e tel qu'il est à Bordeaux. À Bordeaux, au XVIIe siècle, finalement, lorsque le voyageur étranger arrive, on voit avant tout les murailles. Les murailles, ce sont la fierté de la Jurade. C'est quelque part le signe de la ville. La ville est enfermée derrière ces murailles. C'est aussi la sécurité face à... Éventuellement, on se retranche derrière les murailles. On porte les clés de la ville. Les Jurats portent les clés de la ville. Donc, les murailles, vous voyez l'importance qu'elles ont puisqu'elles apparaissent sur le blason de la ville, et la grosse cloche en est l'emblème. Ces murailles donc ont un rôle également donc militaire. Il faut savoir que finalement les problèmes ne viennent pas tant de l'extérieur au XVIIe siècle que de l'intérieur, puisqu'on a affaire à plusieurs révoltes urbaines. La ville donc, c'est une ville insoumise, une ville révoltée, une ville que le roi vient finalement mater. La dernière grande révolte, c'est celle du papier timbré de 1675, où les Bordelais hissent carrément au-dessus des piliers de tutelle les canons pour bombarder quoi ? La citadelle royale. Louis XIV est un homme qui a beaucoup de qualités, mais il lui manque singulièrement le sens de l'humour. Il ne va pas forcément apprécier. Donc, il va demander qu'on rase les piliers de tutelle, ce qui est une grosse perte pour la ville de Bordeaux, puisque les voyageurs... venaient, s'ils ne pouvaient aller en Italie, ils venaient au moins voir les piliers de tutelle de Bordeaux. Claude Perrault vient, dessine les piliers de tutelle, c'est grâce à lui d'ailleurs que l'on a un témoignage de ce monument qui a disparu, car Louis XIV n'y va pas par quatre moyens, il fait raser tout ce qu'il y a aux abords de la forteresse royale. Donc on fait sauter non seulement les piliers de tutelle, mais les Jacobins, qui avaient malheureusement leur couvent à cet endroit. Donc on le repousse en arrière, c'est ce qui va donner lieu, ce qui va être notre église Notre-Dame, l'église des Dominicains. Et donc on va avoir une forteresse royale, une très belle forteresse royale d'ailleurs, avec un portrait du roi en majesté, parce qu'il faut bien montrer qui c'est qui commande quand même, ainsi qu'un renforcement du Fort Louis. Le XVIIe siècle à Bordeaux, c'est le temps des couvents, donc on a... L'émergence c'est la réforme tridentine, François de Sourdis, et avec une multiplication d'ordres religieux qui l'appellent à s'installer à Bordeaux. Donc on a une quantité plus une de couvents féminins et masculins qui s'installent, qui prospèrent. Et c'est eux qui, quelque part, ont à l'intérieur de l'enceinte de grands jardins qui vont servir de réserve foncière, notamment lorsque on va, en 1790... faire que tout cela appartienne à la nation. Donc on va avoir... En plus, ces couvents s'endettent parfois, ce qui est intéressant, parce que pour qu'ils remboursent leurs dettes, ils doivent se faire lotir. Donc on a quelques lotissements au 18e grâce, si vous voulez, à l'endettement des couvents. Donc ça, c'est pour le fun. Donc vous voyez, en gros, au 17e, peu de choses se passent, si ce n'est... Quand même, les énormes, agrandissements des citadelles royales, lors de la Fronde, Pierre pourrait en parler mieux que moi, des constructions, des renforcements pour quand même, Bordeaux a une place très importante, parce que c'est un noyau important de la Fronde. Donc on va construire très très vite de nouvelles défenses pour la ville, pour se garder derrière les remparts, puisque là, pour le coup, on est attaqué par le roi. Puisqu'on est... je ne me trompe pas.
Oui, et là, voilà. Je vous...
Les embellissements. Parce que donc, vous voyez, au 17e, rien ne bouge ou très peu. On a les premières façades à programme. Et comme je suis une 18e-iste convaincue, je vous dirais que merveilleusement, au 18e, la ville s'embellit. La première en brèche dans le rempart, c'est naturellement la place royale, qui est maintenant notre place de la Bourse. Et on a la grande chance d'avoir un architecte d'une très grande qualité, ça a été Jacques V-Gabriel, qui est venu dessiner les plans de la Bourse. Mais pas seulement. Il s'est également promené avec son élève, qui devient son collaborateur, André Portier, à qui il faudrait laisser une beaucoup plus grande place dans le cœur des Bordelais, car il est complètement oublié, ou très peu. Il n'a même pas de rue à Bordeaux, ce qui est un scandale. Franchement, je vous le dis. Car c'est lui qui, quand même, réussit à... Lorsque Jacques V-Gabriel va donner les plans de la Bourse, il est nommé inspecteur des travaux de la Place Royale. Mais lorsque Tourny arrive, il va devenir son architecte. Parce que Jacques V meurt en 1742. C'est quelque part la jointure entre les... Boucher part en 1943. Tourny, le marquis de Tourny, s'installe. Et de 1743 à 1757, il va se produire des bouleversements très important dans la ville de Bordeaux, puisqu'on a tous les cours qui vont être créés, ceux que nous avons actuellement, le cours Saint-Jean, le cours d'Albret, etc., ponctués de places qui vont être chaque fois différentes, avec une ouverture sur la ville, une ouverture sur la campagne. Vous allez voir, en fait, il y a toujours la porte qui sert de rotule, avec une petite place en arrière vers la ville, une grande place vers la campagne, et on va avoir une création aussi. Il va créer autour de ces places, c'est pas seulement la place qui est créée, c'est ça qui est important, que j'ai essayé de montrer, c'est que la place s'accompagne d'embellissements, d'ouvertures de rue. Autour de la place Gambetta, par exemple, dessinée par Portier, on va avoir tout le parcellaire qui va être modifié. De même, autour du jardin public, on a la création du jardin public, mais également tout le parcellaire, avec toutes les avenues qui vont être le chemin du roi, ça va être le cours... Oui, merci. Donc, on va avoir une quantité... On doit beaucoup plus à Tourny qu'on ne le dit finalement. Et on doit finalement beaucoup à son élève, à l'élève de Jacques V-Gabriel, André Portier. Mais il y a aussi la place qui a été jusqu'à présent complètement occultée. C'est celle du cousin de Tourny, qu'il a déjà accompagné à Limoges dans les embellissements qu'il a réalisés. C'est Cosme-Henri Letellier qui le seconde efficacement. Il est nommé inspecteur des Havres et Ports de Bordeaux. C'est un ingénieur, on pourrait dire, c'est pas vraiment un ingénieur militaire, mais on peut dire qu'il en a les capacités puisqu'il a été d'abord militaire. Il est chargé de la défense du Médoc, mais il réalise aussi pour le marquis le suivi des travaux, le suivi des adjudications. Donc on voit en place trois hommes à la tête de tous ces bouleversements. Naturellement, le marquis de Tourny, qui, par son rôle de subdélégué, représentant du roi en province, réussit à mettre tout ça en forme, mais l'architecte qui donne les dessins, secondé par quelqu'un qui est quelque part, on pourrait dire maintenant un ingénieur, mais qui a des qualifications et qui suit également tous ses travaux. Après les passages du marquis de Tourny, les intendants ne vont pas avoir le même poids. Ça va être l'archevêque, Monseigneur de Rohan, avec la création d'hôtels de ville qui va engendrer la réalisation du plus grand lotissement du XVIIIe siècle autour du palais de Rohan. Et ensuite le gouverneur qui va faire venir son architecte parisien, Victor Louis, et qui va créer le grand théâtre ainsi que l'amorce de ce qui aurait pu être la place Ludovise qui malheureusement n'est pas réalisée avec la destruction des châteaux trompettes. Naturellement, il y a aussi les particuliers, les architectes comme les Laclotte qui réalisent d'importants lotissements, et les parlementaires, les gens qui inscrivent dans la pierre l'enrichissement et qui nous créent quand même de magnifiques hôtels bordelais qu'on connaît tous, l'hôtel Sud-Ouest, l'hôtel qui est maintenant le Mont-de-Piété, enfin l'hôtel, non, c'est pas le Mont-de-Piété, le Crédit Municipal, excusez-moi. Voilà, l'hôtel Le Berton, voilà, merci Pierre. Donc tous ces beaux hôtels que l'on a à Bordeaux sont créés, notamment aussi, il ne faut pas oublier, ceux du second style Louis XV qui sont réalisés dans l'île aux Louis. Je vais laisser la place au XIXe siècle.
Pour terminer rapidement,
Alors, il est là-bas, le 20e. Pour conclure sur un chapitre dont on a eu du mal à trouver un titre et qu'on a intitulé finalement « De la ville à l'urbanisme », je voudrais repartir de la frustration de départ qui a été celle pour un 19e-iste de n'avoir à parler du 19e que de la première moitié. Puisque une des règles du jeu était que la notice générale s'arrête au plan cadastral de référence, qui était donc celui de 1850. Alors, par un truchement éditorial, j'ai réussi à gratter quelques pages jusqu'en 1914, et Jean-Paul Jourdan, qui est là-bas au fond, peut-être pourra vous dire combien il peut être frustrant de rédiger une histoire de Bordeaux au XXe siècle en épilogue en 7 pages.
Hein.
Voilà pour la contrainte de départ. Je voudrais dire aussi que cette contrainte a finalement fait émerger un certain nombre de choses qui sont plutôt qui était plutôt méconnu, et notamment ce premier 19e siècle, duquel on a l'habitude de dire que c'est un siècle où finalement il se passe peu de choses dans les villes françaises, avant Haussmann finalement, qu'est-ce qui se passe en France? Pas grand-chose, les villes se transforment peu, ce qui est bien entendu faux. Finalement, cet écart chronologique, 1790-1850, a permis de réouvrir, je dirais, deux dossiers essentiels, celui du lotissement des biens nationaux, sur lesquels nous n'avons à Bordeaux finalement quasiment aucune publication synthétique, et un gros dossier qui avait été traité par une remarquable thèse d'Isabelle Roux sur les transformations et le lotissement du Château Trompette, devenu donc les Quinconces. Et c'est bien dans cette première moitié du 19e siècle que s'opèrent ces deux transformations majeures, auxquelles j'en rajouterai volontiers une complexe, qui est cette apparition de la notion, même si le mot n'existe pas, de la notion d'urbanisme, c'est-à-dire que le travail en réseau, le travail sur les réseaux, qui est largement initié par les problèmes d'adduction d'eau, d'éclairage, de pavage, d'ouverture de rue, de lotissement, qui sont, comme l'a dit René, extrêmement importants au XVIIIe siècle, eh bien se poursuit après la Révolution. Et finalement, on ne peut pas parler véritablement d'une coupure de la période de l'embellissement à la Révolution, mais certainement plutôt d'un prolongement des idées urbanistiques des Lumières dans ce qui va devenir l'urbanisme moderne du 19e siècle. Donc voilà essentiellement, je dirais, ce que cette contrainte m'a permis de mettre à jour, ou en tout cas, c'est sur quoi elle m'a permis d'insister dans ma contribution pour cet atlas. Et je voudrais dire pour finir que au terme de cette expérience, je me dis de plus en plus qu'il reste à faire l'histoire de l'agglomération bordelaise de 1850 à nos jours, et que ça demanderait un changement d'échelle, parce que je pense que dès 1850, on peut passer aux communes périphériques de Bordeaux. À partir de 1865, une partie de ces communes est annexée pour agrandir Bordeaux, et je pense que ce serait un bel ouvrage que de faire l'atlas historique de l'agglomération bordelaise depuis 1850. Voilà.